La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts en compagnie toujours des femmes artistes créatrices. Nous sommes arrivés à la 31e émission sur ce sujet. Nous évoluons au début du 20e siècle et nous allons aujourd'hui continuer sur cette lancée. Alors la 30e émission était consacrée à des artistes de pays orientaux, la Turquie et l'Iran, avec la peintre plasticienne Farel Nissa Zaid, une poétesse iranienne nommée Simin Behbahani, un petit détour en Israël avec la compositrice Verdina Shlonsky, et enfin nous sommes revenus en Europe pour rejoindre des Portugaises, la peintre Maria Helena Vieira da Silva et la compositrice Berta Alves de Souza. Alors en règle générale pour les compositrices, je fais en sorte que vous puissiez écouter leurs créations. Alors aujourd'hui, j'ai encore envie de rester un petit peu au Portugal, non seulement parce que j'apprécie le pays et ses habitants, mais parce que j'ai fait la connaissance, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, ça ne nous rajeunit pas, d'une poétesse nommée Flor Bela Espanca, en déambulant dans une librairie parisienne. Alors c'était par le plus pur des hasards que je tombais sur ce recueil qui m'a attirée, un peu comme un aimant. Alors était-ce le titre, La Châtelaine de la Tristesse ? Était-ce son nom qui tintait mélodieusement à mes oreilles ? Lorsque je le prononçais, je ne saurais le dire et je ne peux toujours pas répondre à ces questions aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, en ouvrant le livret au hasard, mon regard s'est porté sur des mots et j'ai lu. Puis j'en ai voulu davantage et une autre page encore que j'ai encore lue, puis une autre et encore une autre. Et finalement, j'ai pas tout lu, tout le livret dans la librairie, mais je l'ai acheté pour continuer ailleurs ce que j'avais commencé ici. Et je me suis intéressée à cette jeune femme dont les mots, malgré la traduction que en général je n'aime pas, avaient touché mon âme. Alors sans doute, y a fait le talent de la traductrice, j'ai vu qu'elle se nommait Claire Benedetti. En tout cas, celle-ci a su restituer en français ce qui a été émis en portugais. Et je peux dire que de cette plainte, puisque c'en est une, lancée au monde par Flor Bela, j'en ressentais la douloureuse poésie. Et c'est ainsi que je me suis intéressée à elle et à sa vie, déjà en lisant en préface la courte biographie écrite par Alberto, en deux mots, un poète portugais qui a su lui aussi mettre de la poésie dans son texte. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous lire les premières lignes qui commencent ainsi. Deux ou trois choses que je sais de Flor Bela. Le vent du sud souffle, chaud, étouffant. La nielle noircit le grain des moissons. Le regard n'atteint aucun horizon. Il se trouble dans les vagues de chaleur. La vie ici ressemble à la terre plate, aride. L'esprit est un désert solaire, la mémoire un oiseau fou d'amour qui se précipite et saigne et meurt avec la lenteur des chênes lièges. Et cette rumeur sourde de la terre, du granit, des mines inexploitées, c'est la première que tu as entendue quand tu es née. Elle t'a accompagné toute ta vie et à coup sûr, c'est la dernière que tu as perçue dans la mer tourmentée de Matosinhos. La mer a redonné à ton corps meurtri la rumeur de la terre et la précaire ombre des arbres ne t'a pas protégé de la solitude, de la mélancolie, de la mort. Mais si tu regardes le ciel immense de l'Alentejo, tu verras tes eaux scintiller dans la croix du sud. Alors, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Pour simplement commenter ses écrits, à savoir que cette jeune femme s'est suicidée la nuit précédant son jour anniversaire, entre le 7 et 8 décembre, et qu'elle allait avoir 36 ans. Alors à l'époque, j'avais 36 ans moi-même, quand je l'ai découverte, et je me suis sentie comme dépositaire d'un quelque chose qui lui appartenait, mais qui, étrangement, faisait écho en me liant à elle. Alors pour localiser le lieu de sa vie et de sa mort, l'Alentejo est une province du sud-est du Portugal. Alors qui est Flor Bela Espanca, à part être une grande poétesse portugaise? Elle est née Flor Bela de Alma de Conceição, C'est une enfant illégitime que son père reconnaîtra quand même, mais des années plus tard et qu'il élèvera après la mort de sa mère avec son frère. Elle fera des études, suivra une filière de lettres, puis de droit. Elle sera d'ailleurs l'une des premières femmes à pouvoir entrer à la faculté de droit de Lisbonne. Et pendant ses études, elle se mêlera à des groupes d'écrivains, notamment féminins, plutôt militantes, qui cherchent à s'affirmer dans une société plutôt machiste. Alors, je vous apprends rien. Vous constatez qu'au début du XXe siècle, en Europe, même fin XIXe, aux États-Unis, les femmes revendiquaient le droit à la liberté, à celle de s'exprimer et de vivre pleinement, comme elles l'entendaient, au même titre que les hommes. Alors, pour revenir à Flor Bella Espanca, celle-ci collaborera également, toute jeune femme, à des journaux, des revues, l'un d'eux intitulé « Le Portugal féminin », et elle travaillera en tant que journaliste dans différents journaux. Alors, sa première œuvre connue intitulée « Vie et mort » est écrite dans l'enfance. Cette précocité annonce déjà la tonalité de son expression artistique dans le futur. Son premier ouvrage de poésie sera publié sous le nom de « Livro de Magoas », le livre des douleurs, j'espère que c'est la bonne traduction. Elle a 25 ans, puis 4 ans plus tard, elle publiera un livre intitulé « Livro de Soror Sodad ». Mais une bonne partie de ses œuvres seront surtout publiées après sa mort. Alors elle se sera mariée 3 fois, ce qui apparemment ne lui réussira pas, et sera plutôt source de déception, d'autant plus qu'elle aura fait des fausses couches qui la déstabiliseront psychiquement. Et il est dit d'ailleurs qu'elle avait manifesté déjà jeune des signes de neurasthénie et que sa mère était névrosée. Et de plus, elle perdra dans un accident son frère auquel elle était très attachée, et c'est donc pour elle une source de souffrance supplémentaire. Et le décès de son frère lui inspirera un recueil intitulé « Les masques du destin ». Et la souffrance est d'ailleurs ce qu'elle exprime au travers de son œuvre empreinte de tristesse, de solitude. Il semble au fond que c'était une personne passionnée, une femme de désir, mais qui n'aura jamais trouvé son bonheur en ce monde. Alors, dois-je vous lire un poème ? Je ne voudrais pas assombrir cette émission par trop de tristesse. Un passage peut-être un peu plus lumineux, comme celui-ci tiré d'un recueil intitulé « Landes fleuries », un poème intitulé « Promenade à la campagne ». Mon amour, mon amant, mon ami, cueille l'instant qui passe, l'instant divin, goûte-le avec moi et goûte-le en moi, je me sens forte et gaie, toute pleine de vie. À moins que vous ne préfériez un peu plus d'ombre, celui qu'apporte la châtelaine de la tristesse lorsqu'elle dit « Hautaine et cuirassée de mépris, je vis seule en mon château de peine, où passe la lumière de tout l'amour du monde, jamais en mon château nul n'a pu pénétrer. » Quant au livre des blessures, il commence ainsi. Voici un livre de blessures, infortuné qui passait dans le monde, pleurait en le lisant. Seule votre douleur d'âme torturée peut l'éprouver, peut-être, et le comprendre. Alors je crois que l'évocation de cette personnalité tourmentée mérite une musique mélancolique. Je n'en vois pas de plus éloquente que le fado. Aussi, je vous propose d'écouter la grande interprète du fado, Amália Rodrigues, qui a représenté le Portugal dans le monde entier. Elle est née en 1920, au début du XXe siècle, et sa voix a charmé des milliers de personnes à travers le monde et continue encore en traversant le temps. Et c'est avec plaisir que je vous propose d'écouter Amália Rodrigues dans une chanson intitulée « Dura Memoria ».
Inquietação dos meus deixei-me descansar com meus cuidados nesta inquietação dos meus amores. Basta-me um mal presente e os temores. Venham de novo bens passados afrontar meu repouso com suas dores, sem que venham de novo bens passados afrontar.
Le cours de nos pérégrinations. Et comme j'étais au Portugal, là, sans penser seulement, je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire un petit tour en Espagne, c'est juste à côté. Et peut-être que je vais rencontrer quelques femmes artistes, des créatrices. Alors, je n'étais pas tellement convaincue parce que les femmes dans ces pays du Sud sont peu mises en lumière. Hein. Leur expression n'est peut-être même pas possible, trop de contraintes ou d'obstacles. Eh bien, figurez-vous qu'il m'a fallu encore tirer un fil, un tout petit fil de rien du tout, pour que tout à coup, je sois assaillie par tout un peloton de femmes à ne plus savoir où donner de la tête. Et finalement, de ces Espagnoles créatrices du XXe et même du XIXe siècle, j'en ai dénombré environ une quinzaine, et je ne vais pas résister à l'envie de vous les présenter. Alors, j'ai trouvé des peintres, une sculptrice, mais surtout des femmes de lettres, écrivaines, poétesses, parfois militantes des droits des femmes espagnoles, hein, comme Carmen de Burgos y Segui, l'aînée de ces dames, puisqu'elle est née en 1867. Quoique l'aînée soit plutôt Rosalia de Castro, née en 1837 et reconnue comme une figure fondatrice et emblématique de la littérature galicienne moderne. Ensuite vient la comtesse Emilia Pardo Bazán, qui elle est née en 1851 et était une écrivaine espagnole, paraît-il, célèbre pour ses romans naturalistes. Donc, nous avons là trois écrivaines nées au XIXe siècle, espagnoles de surcroît, et comme je suis curieuse de voir à quoi elles ressemblent, et vous aussi certainement, eh bien, nous allons faire leur connaissance. Alors, je commencerai par l'aînée, c'est-à-dire Rosalia de Castro, qui, je le rappelle, est née en 1837 à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord de l'Espagne, en Galice. Elle est ce qu'on appelle une fille naturelle, c'est-à-dire que le père ne l'a pas reconnue. Bon, il aurait eu du mal, hein, car d'après ce que j'ai lu, c'était un prêtre. Quant à sa mère, elle était issue de la noblesse. Or, ses débuts dans la vie sont sujets à polémique, qui l'a élevée. La mère était-elle présente? Comment la vie s'est-elle organisée autour de cet enfant illégitime? Bon, je rappelle que nous sommes en Espagne au XIXe siècle. Ça ne devait pas être le top pour les femmes, ni pour les enfants, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, le décès de sa mère lui aura inspiré un recueil de poésie intitulé « À ma mère », où Rosalia de Castro manifeste son attachement, sa souffrance et aussi sa solitude après la perte de celle-ci. Alors d'autres de ses écrits utiliseront la figure maternelle. Quoi qu'il en soit, elle se mariera assez jeune, à 21 ans, avec un historien, journaliste, éditeur galicien nommé Manuel Martinez Murgia, qui l'aurait encouragé et même soutenu dans sa création pour ensuite l'éditer. Et elle aura eu avec lui 7 enfants. Alors, ceci dit, son goût de l'écriture lui est venu très jeune, puisqu'à l'âge de 12 ans, elle écrit ses premiers vers et publie son premier livre à 17. À ce qu'il paraît, elle écrivait aussi bien en castillan, bon, on va dire que c'était la langue espagnole nationale, que en galicien, le dialecte de sa province. On dit aussi qu'elle fut une figure fondatrice et emblématique de la littérature galicienne moderne, car elle a participé au travers de ses écrits en quelque sorte à réhabiliter cette langue galicienne considérée comme un dialecte régional secondaire, hein, du quotidien, rural de surcroît. Et cette revitalisation, réhabilitation du galicien, est nommée le Rexurdimento. Rosalia de Castro en est une des figures les plus représentatives, d'autant plus que les sujets de ses livres traitaient majoritairement des conditions d'existence des habitants de la Galice, et notamment celles des paysans plutôt exploités ou dominés. Alors il semblerait qu'elle s'opposait à l'abus d'autorité, prenait parti pour les pauvres et pour la défense des droits des femmes. Elle est cataloguée comme une représentante du romantisme espagnol au même titre qu'une autre écrivaine du XIXe siècle, cubaine cette fois-ci, mais qui vécut une grande partie de sa vie en Espagne et qui se nomme Gertrudis Gómez de Avellaneda. Et d'après plusieurs sources, pour recouper mes informations, il semblerait que Rosalia de Castro eut une vie douloureuse, ponctuée de deuil, de difficultés économiques. Et de plus, elle était de santé fragile et mourut d'ailleurs assez jeune d'un cancer, à l'âge de 48 ans, en 1885. Or, sa créativité est marquée à la fois par le contexte social, dans lequel elle évolue en se faisant témoin et porte-parole des paysans. Un de ses livres intitulé « Cantares Gallegos » en est la représentation. Et d'ailleurs, le 17 mai, date de publication de ce livre, a été choisi pour commémorer la renaissance culturelle de la Galice en devenant la journée des lettres galiciennes. Et d'autre part, un autre ouvrage intitulé « Follas Novas », son dernier livre publié en 1880, est considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature galicienne. Alors, un musée lui est maintenant consacré dans la maison dans laquelle elle a terminé ses jours, et ses restes reposent dans l'église de San Domingos de Bonaval à Saint-Jacques de Compostelle, parmi d'autres Galiciens célèbres. Alors, on peut dire que cette femme écrivain est devenue un mythe populaire. Alors, je suis quand même curieuse de savoir ce qu'elle a écrit, je ne la connais pas. Est-il possible de lire quelques textes? La barrière de la langue est un fait. Bon, je ne suis pas convaincue par ce que j'ai trouvé sur Internet. Cependant, l'un de ses poèmes a été mis en musique pour faire une des chansons les plus emblématiques de Galice sur la musique du compositeur galicien du XIXe siècle, Xoán Montes Capón. Et il s'agit du poème « Negra Sombra » que l'on traduit par « Ombre noire ». Or, ce thème de la douleur, qui est récurrent, me fait penser à la poétesse portugaise Flor Bela Estanca. Il s'agit d'une douleur liée à la condition humaine, hein, douleur d'exister. Bon, c'est l'avis de nombreux critiques galiciens. Et dans le poème Negra Sombra, la sombra, l'ombre, c'est la peur, l'angoisse. Et il semblerait que Rosalia fût souvent en proie à l'impression d'être poursuivie par quelque chose d'inquiétant. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous propose d'écouter ce poème « Negra Sombra » écrit par Rosalia de Castro sur la musique de Juan Montes Capone.
Thank you.
voici arrivés à la fin de l'émission, j'allais dire à la fin du voyage. Nous avons surtout évoqué deux personnalités féminines, poétesses, écrivaines, l'une portugaise, l'autre espagnole, dont les tourments témoignent de la partie ombrageuse, sombre de leur tempérament, ce qui contraste fortement avec l'impression colorée qu'évoquent ces deux pays de prime abord. Je dis bien de prime abord car la lumière éclatante du soleil révèle aussi les brûlures des âmes de ceux qui vivent sur ces terres. Sur ce, merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission de La Voix des Arts sur les créatrices femmes artistes. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.